fait la vaisselle, faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde.
Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elles.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie,
libérées,
soumises,
d'esprit,
fatales,
tatouées,
douces,
savantes,
de lettres,
faciles,
fidèles,
bonnes femmes,
au foyer,
modernes,
citoyennes,
de caractère,
combattantes.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elles, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.
Donc voilà. La nouvelle émission est lancée, donc présentée par Mimi et Yaya, que vous avez déjà entendu dans les Mères Poules. Alors, donc cette nouvelle série d'émissions, donc elle est consacrée aux femmes, comme vous avez pu entendre dans le générique, présentée le premier dimanche de chaque mois, de 13h à 14h. Alors nous ferons le portrait de femmes remarquables, bien sûr, mais nous parlerons également des femmes dans leur quotidien et de toutes les batailles, petites et grandes, anciennes ou actuelles, qui jalonnent leur parcours. Et donc en introduction, on va vous proposer la lecture d'un extrait de l'ouvrage de Paul Janet, qui vaut quand même son pesant d'or.
Oui. C'est extraordinaire.
Alors quand même, livre qui a été couronné par l'Académie française à l'époque, intitulé « La famille, leçon de philosophie morale » et qui a été édité en 1861. Alors, je vous donne un premier aperçu. C'est « Le ménage est donc pour la femme une belle et grande occupation. Je ne veux pourtant point enchaîner la femme au ménage, qu'elle le prenne comme un devoir et comme un plaisir, rien de mieux. » Mais que ce plaisir ne dégénère pas en manie. Qu'elle soit la maîtresse et non la servante de la maison. Qu'elle ne soit pas seulement la ménagère de l'homme, mais encore sa compagne d'esprit. L'homme, fatigué, importuné, rentre au logis pour y chercher le délassement. Il ne lui faut pas seulement un intérieur bien réglé, ni même un intérieur orné. La femme ne doit pas oublier qu'elle est la joie, le charme, la récréation de la famille. Le grand principe de la politique domestique est de faire que son intérieur paraisse au mari plus agréable que celui des autres. Tout un programme.
Tout un programme. Et ça continue quelques lignes plus loin. Je ne dis point que la femme doive chercher à avoir plus d'esprit que la nature ne lui a donné. Le simple naturel vaudra toujours mieux qu'une sottise prétentieuse. Mais je veux qu'elle cultive l'esprit qu'elle a. Je ne lui demande pas non plus des connaissances profondes et spéciales, mais une disposition générale à comprendre et à admirer.
Son
mari, entre autres, oui. Qu'elle ne fasse pas la différence, si l'on veut, des ordres et des styles de l'architecture, qu'elle ne connaisse pas l'histoire des diverses écoles de peinture, ou qu'elle ne prenne point parti pour telle ou telle théorie littéraire, je le veux bien. Mais qu'elle ne reste pas insensible devant un grand monument ou un beau tableau, qu'elle puisse lire Madame de Sévigné sans s'ennuyer et écouter une tragédie de Racine sans s'endormir. Voilà. Donc c'est quand même tout un programme. Ça reprend un peu là, quand même comme le jingle, là. Qui c'est qui doit rester belle, les mains dans la merde, ou chez, voilà, la chanson d'Anne Sylvestre là. Enfin bref, dans ce contexte de fin de 19e siècle, Pierre de Coubertin, qui était un historien, un pédagogue français, Pierre de Coubertin s'exprime quant à la place des femmes aux Jeux Olympiques, thème de notre émission d'aujourd'hui.
Voilà, alors on va écouter.
On va l'écouter.
Voilà.
C'est très intéressant.
Les femmes pourraient participer si on le juge nécessaire. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux Olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs. Je conçois l'olympisme moderne comme constitué en son centre par une sorte d'altise morale, de bourbe sacrée, où sont réunis pour affronter leurs forces les concurrents des sports virils par excellence, des sports qui visent la défense de l'homme, sa maîtrise sur lui-même, sur le péril, sur les éléments, sur l'animal, sur la vie. On doit conclure que le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel.
Voilà, vous avez bien entendu. Donc, tout un programme.
Hein. Oui, et un hymne à la virilité quand même. Hein.
Alors, c'est en 1894 que Pierre de Coubertin est le rénovateur des Jeux Olympiques, de l'ère moderne. Donc tel,
ouais, voilà, ouais.
Alors, il va fonder le Comité International Olympique, le CIO, dont il va être le président de 1896 à 1925. Et c'est durant cette période qu'il va dessiner les anneaux olympiques et installer le siège du CIO à Lausanne. Alors, il milite également pour la création des Jeux Olympiques d'hiver, dont la première édition a lieu à Chamonix en 1924. Et puis, durant les 31 années qu'il consacre à faire de sa simple idée un phénomène mondial, le baron de Coubertin va s'opposer donc à la participation des athlètes féminines aux Jeux Olympiques. Alors, pour la simple raison qu'il jugeait inappropriée, c'était que les femmes s'exposent devant les hommes, lesquels risquaient d'avoir un regard concupiscent sur les parties dévoilées du corps féminin. Alors, il disait d'ailleurs, hein, s'il y a des femmes qui veulent jouer au football ou boxer, libre à elles, pourvu que cela se fasse sans spectateurs, car les spectateurs qui se regroupent autour de telles compétitions n'y viennent point pour voir du sport. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent voir ?
Des petites culottes,
voilà, des jambes nues, voilà. Alors, en substance, hein, son objectif était donc de protéger les femmes des spectateurs plus motivés par un esprit lubrique que par un esprit sportif. Il estimait de son devoir de protéger la dignité des femmes.
Oui, parce que c'est vrai que c'était pas quelqu'un... les femmes de son entourage faisaient du sport.
Voilà, c'est ça, voilà, faisaient du sport, voilà.
Mais par contre, fallait quand même les protéger.
Les hommes n'avaient pas besoin de les regarder avec un œil... concupiscent.
Bon, c'est toute une époque aussi.
Voilà. Donc, allez, on vous propose puisqu'on va parler des Jeux Olympiques, on va vous passer une petite chanson donc, de Aya Nakamura, donc le medley d'ouverture qu'elle a fait au JO.
J'ai pas le time pour voir. C'est pas fort. Là tu fais trop d'efforts. C'est pas là. C'est pour les mecs comme ça. Tacler pour des pipettes. Ça va claquer pour des pipettes. Ça va claquer crack. Pour les bombayes. Ça va grave que crack. J'crois que c'est leur ding dong. Je ferai mieux d'aller choisir mon vocabulaire. Comme ça qu'on fait les choses.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien, par exemple...
En 1900, par exemple.
En 1900, c'est-à-dire il y a... Ah, il y a longtemps.
Il y a 124 ans.
124 ans, mon Dieu, mon Dieu. Seulement 22 femmes vont participer aux Jeux Olympiques. Et dans des domaines quand même un peu précis, le golf, le tir à l'arc, l'équitation, tennis, plongeon, voile, escrime, natation et patinage artistique. Pas patinage de vitesse.
Ouais, non, non.
Et donc oui, c'est pas énorme quand même, hein. Ça commence tout doucement. Alors ceci dit, même actuellement, si on regarde les licenciés de... dans les clubs de sport, il y a que il y a un peu plus d'un tiers de femmes dans les licenciés, mais c'est pas tant que ça. Bref, en tout cas, en 1900, c'est Charlotte Cooper qui est devenue la première femme sacrée championne olympique dans une épreuve individuelle, et c'était simple dame tennis, voilà, lors des Jeux de Paris. Et c'était quelqu'un qui avait déjà remporté pas mal de prix. Hein, 4 titres à Wimbledon, à Londres.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et en fait, la réelle entrée des femmes aux Jeux Olympiques, ça se fera plutôt un petit peu plus tard, en 1912, à Stockholm, suite à un vote du comité olympique en 1910, qui valide leur participation à 2 épreuves de natation et 1 de plongeon. C'est un vote qui a été assez agité, d'ailleurs. Hein. Ce n'était pas encore très, très facile.
Oui,
hein.
Voilà, c'était difficile à accepter pour les
voilà,
hommes.
Voilà, il y a des hommes qui supportaient mal cette idée. Voilà, donc elle reste assez marginale très longtemps, hein, dans les Jeux Olympiques. Et que dire, bah, en 1924, il y a toujours moins de 5% des athlètes féminines, hein, parmi les participants. Voilà, donc elle continue à lutter. Hein. Il y a dans les personnages un petit peu remarquables, nous avons Alice Milia, qui était une féministe française.
Pratiquante d'aviron.
Pratiquante d'aviron, ouais. Et puis alors, très active, hein, présidente du club Omnisport Féminin, Fémina Sport. Fondatrice, de la Fédération Française du Sport Féminin. Enfin bon. Tout ça, ça se passe dans les années 1912, 1917, enfin, toutes ces années-là. Et très, très rapidement, elle va œuvrer pour que les sportives soient admises à toutes les épreuves des Jeux Olympiques.
Mais là, il va falloir attendre longtemps. Hein.
Et alors, pour vraiment que ça devienne une sorte d'obligation, quoi, enfin, on attend 2007 quand même
hein, voilà. Donc, c'est quand même relativement récent.
Ça s'est
passé
en 2 coups de cuillère à peau.
Voilà, c'est quand même relativement récent. Alors, par exemple, l'Américaine Gertrude Ederle, elle sera triple médaillée aux Jeux Olympiques de Paris de 1924. Et elle va devenir, 2 ans plus tard, à 20 ans seulement, la première femme à traverser la Manche à la nage, battant ainsi le record masculin de l'époque. Hein, c'est-à-dire qu'elle a même été
trop
plus
forte.
Vite qu'un homme. Hein. Alors cette performance, évidemment, a suscité l'admiration du monde entier et a fait d'elle donc une véritable icône du sport féminin. Et de manière plus anecdotique, oh là là, mais tout aussi révélatrice de cette difficulté de reconnaissance des femmes, les sportifs, par exemple, sont logés à l'extérieur du village olympique, hein, jusqu'en 1952. Alors, il ne faudrait quand même pas qu'il y ait des mélanges. Elles vont être admises dans des quartiers, mais séparés des hommes, jusqu'aux Jeux de Moscou. Hein. C'est-à-dire que là, bon, ils sont dans les mêmes, même enceinte, mais quand même chacun séparé de son côté. Et ce n'est qu'aux Jeux de Los Angeles, en 1984, que cette division est abandonnée. Et donc, par exemple, aux Jeux Olympiques de Mexico, pour la première fois dans l'histoire, une femme, la coureuse de haies mexicaine Enriqueta Basilio, allume la flamme lors de la cérémonie d'ouverture. Mmh. Une première. Et donc... Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter un petit extrait d'un dessin animé qui s'appelle Dingo Champion Olympique, où donc, justement, le présentateur parle de cette flamme olympique.
Environ 2776 ans de cela, naquit dans le pays des anciens Grecs, à l'ombre du magnifique mont Olympe, une institution connue sous le nom de Jeux Olympiques. L'emblème représentatif de ces glorieux jeux du stade est le porteur de flammes. À travers les âges, son pas alerte à transporter le précieux symbole aux quatre coins du monde, dans la Rome antique, en Égypte, en Inde, en Chine, à travers les forêts et les déserts, par-dessus les montagnes et les océans, pour arriver jusqu'à nous. Le rituel olympique exige que cette flamme héroïque, jamais au grand jamais ne s'éteigne, mais continue de brûler en toutes circonstances telle une étoile, pour que sa lumière éternelle puisse guider tous les athlètes sur la voie du véritable esprit sportif et les écarter des pratiques déloyales. Elle leur donne du courage et leur rappelle à jamais tous ceux, forts et braves, qui au cours des siècles avaient pour mission, souvent au prix d'énormes sacrifices, de préserver ce précieux feu pour le transmettre à la postérité, afin que l'humanité tout entière soit éclairée par cette flamme qui ne s'éteint jamais.
Ah là là, c'est une autre époque aussi, ça. Oui. Dans le ton, la présentation, c'est rigolo.
C'est 1942.
Ouais, ouais, c'est vraiment... au son, on reconnaît...
Oui, bah, oui, oui.
Alors, on pourrait parler d'Alison Félix aussi, quand même. Une athlète actuelle, qui est l'athlète féminine la plus décorée de l'histoire olympique de l'athlétisme. Une légende du sport. Un palmarès extraordinaire. Elle est la seule star féminine de l'athlétisme à avoir remporté 7 médailles d'or et 2 médailles d'argent, sans parler de toutes ses victoires fort nombreuses aux championnats du monde et championnats d'Europe. On peut aussi peut-être évoquer un peu les Jeux de Paris. 2024,
bah oui, quand même, hein, voilà,
je précise la date, mais est-ce utile?
Paris 2024.
Il y a eu pour la première fois autant d'athlètes hommes que de femmes.
Non, quand même à noter. Hein.
C'est quand même notable, oui. Je pense qu'il y a eu un effort de fait quand
oui,
même.
De parité.
Alors, les femmes ont quand même remporté 23 médailles olympiques. Bon, 4 or, 11 argent, 8 bronze. C'est tout à fait honorable.
Bah oui, hein, quand même.
Alors ça concerne les Jeux olympiques, mais il y a aussi les Jeux paralympiques. Hein,
oui, qu'il ne faut pas oublier, parce qu'ils ont...
Ouais, et les Françaises ont remporté 15 médailles. 5 d'or, 6 d'argent, 3 de bronze, tout de même. Donc, voilà, c'est très honorable, tout ça. Mais il faudrait que ça perdure, et puis peut-être que ce soit encore mieux.
Ben oui, oui.
Alors, on parle des Jeux paralympiques. Là, on peut peut-être rappeler que c'est pas non plus... au départ, c'est une idée qui a émergé au sein d'un hôpital, en fait.
Oui, dans l'après-guerre.
Ouais, dans l'après-guerre. Ludwig Gutmann, neurologue de l'hôpital de Stoke-Mandeville, près de Londres. il a eu l'idée d'organiser ce qu'il a appelé les Jeux mondiaux des chaises roulantes et des amputés. Ça s'est passé sur le terrain de l'hôpital en 1948. Et plus tard, on a appelé cet événement les Jeux de Stoke-Mandeville. L'idée, c'était de réhabiliter par la pratique physique des victimes et anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques.
Voilà, leur redonner un peu le goût à la vie et du coup, leur faisant faire
puis,
du sport.
Qui se remusclent en même temps et tout ça. Bref, c'était une très bonne idée. Mais voilà, les Jeux paralympiques, le tout début, c'était quand même... plus à visée de soins, à la limite, que de performance sportive. C'était thérapeutique et non pas un événement sportif en soi. Voilà, donc...
D'ailleurs, il n'y avait qu'une seule épreuve, c'était le tir à l'arc à l'époque.
Voilà, et le terme « jeux paralympiques », on l'a vraiment utilisé officiellement, après validation du CIO, bien sûr. Qu'à partir des Jeux de 1984. Voilà. L'histoire rapide des Jeux paralympiques.
Oui. On ne peut pas tout entrer dans le détail pour tout, chaque chose, mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur Internet. Alors là, je vous propose d'écouter comment Lucky Love, qui a chanté pour justement l'ouverture des Jeux paralympiques, et qui a chanté « My Ability ». Voilà. Et alors, pour rappel, Lucky Love, il est né sans bras gauche.
It's been in my head for so long after. They told me this words I can remember. It keeps coming on and on. They keep beating on and on my face. And they keep telling I'm a liar. Babe, it's not my fault, I build these layers. I can't meet myself. What about my own ability? What the hell is wrong with my body? Am I not enough? Hope you see the fire to find a home. Who gives you the fight to handle us? What's wrong with you? Tell me, baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry, babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me, baby, baby, do I cry as you do? Do I kiss as you do, do I love as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you.
You watch me baby, baby.
My flesh to gel my soul. I just feel like I can fall. My mouth says no child enough. And my hair is way too long. And what about my voice? What about my voice? Do you think I sound?
Do you think I sound like the other?
Do I cry as you do? Do I kiss as you do? Do I love as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. Watch me baby, baby. Do I cry as you do? Do I kiss as you do, do I love as you do? Sorry babe, what's the difference? I can move as you do. And if you let me do, I'll make this show for you. What about my own ability? What the hell is wrong with my body? Am I not enough? Or even too much? It will be short-sighted pride. Is it coming to your mind that I do care? To be a man.
You're
Et ben voilà, une jolie chanson quand même.
Jolie chanson. Ouais.
Alors nous allons vous parler aussi de quelques-unes de ces athlètes féminines donc, hein, qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc notamment cette Américaine Alexandra Truitt qui a été amputée d'une jambe après l'attaque d'un requin, voilà, comme dans le film Les Dents de la Mer. Mmh. Alors voilà, pour l'anecdote, je vous passe un peu la musique. Alors je vous laisse un petit peu vous
imaginer le requin proche.
Voilà, le requin qui approche, voilà, tout ça. Alors, Ali, puisque c'est son petit nom, voilà, dira lors d'une interview, « Un requin est apparu comme sorti de nulle part et a commencé à nous attaquer. » Elle était avec une copine. Et donc, nous avons riposté, mais très vite, le requin avait ma jambe dans sa gueule et avant même de m'en rendre compte, il m'avait mordu le pied et une partie de la jambe. Donc, elle a subi deux opérations chirurgicales et a été ensuite transférée dans un hôpital de New York pour subir une amputation transtibiale. Bon, c'est il a enlevé
une partie du tibia. On sait largement en dessous du genou, quoi.
Ok. Bon.
On va dire ça.
Donc ça, c'était en mai 2023. Et donc, après moult épisodes, évidemment, elle va surmonter cet épisode de traumatique et elle est de retour dans les bassins quelques semaines après son intervention et fait part de son intention de participer aux Jeux Olympiques à sa mère, une ancienne capitaine de l'équipe de natation de l'université de Yale. Et puis, elle a été mise au courant, en contact avec le programme de natation paralympique américain. Et elle a commencé à s'entraîner et à concourir moins de 4 mois après son opération. Et des semaines durant lesquelles Ali Truitt s'entraînait jusqu'à 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Donc, assez intensif, voilà. Mais en juin... donc, elle a été qualifiée pour le 400 mètres nage libre féminin et elle a remporté la médaille d'argent. Donc, pas mal quand même.
Ouais, c'est pas mal.
Je ne sais pas si on en aurait fait au sens. On remarque que peut-être ça donne envie d'aller vite, d'avoir un requin en fesse. Mais...
Mmh. Ouais, enfin, c'est impressionnant quand même.
Oui,
hein.
Oui,
ouais.
C'est remarquable quand même. Mmh.
On peut parler aussi d'une autre sportive paralympique, Béatrice Viau.
Ah.
Alors c'est une...
Bébé Viau pour des intimes.
Bébé Viau, oui. Ou Béa. elle avait été amputée des 4 membres à l'âge de 11 ans. Et c'est elle qui a porté la flamme olympique à la Concorde lors de la cérémonie des JO 2024. Elle est devenue athlète handisport après son amputation. Elle a été amputée en fait des jambes et des bras suite à une méningite. C'est des séquelles dramatiques. Mais ça ne l'a pas empêchée effectivement de s'entraîner et de devenir une championne accomplie. Elle était passionnée par l'escrime, en fait. Hein. Et à l'âge de 19 ans, elle a réalisé son rêve, qui était de participer à des JO. Donc, elle est allée aux JO de Rio. Et là, médaille d'or. Ensuite, en 2020, elle est allée à Tokyo, pareil, médaille d'or. C'est quelqu'un qui a été très inspirant, finalement, pour de nombreux athlètes. Et elle s'est aussi investie beaucoup dans... Arc 4 Sport, une association créée par ses parents pour promouvoir le sport comme thérapie physique et psychologique pour les enfants porteurs de prothèses externes. Alors, c'est vrai qu'on a encore la notion de thérapeutique.
Dans le... d'avoir un mieux-être.
Mais on n'en parle pas tellement. On en parle par rapport au sport en général, que c'est mieux de faire du sport, qu'on sent mieux, que les endorphines, tout ce qu'on veut. Mais je trouve que là, à chaque fois, quand même, l'accent est mis sur l'aspect thérapeutique. Alors que finalement, si on regarde les grands sportifs un peu monomaniaques qui s'entraînent jour et nuit, etc., peut-être qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du thérapeutique. Mais bon, voilà, c'est une petite réflexion en passant.
Voilà, le sport, voilà.
Le sport, oui, c'est ça, diverses fonctions, on va dire. Voilà, donc... Cette sportive continue à œuvrer dans le domaine du sport. Elle aimerait devenir la présidente du CIP, le Comité paralympique italien, et du CONI, Comité olympique italien. Et de ce fait, pouvoir réunir ces deux institutions dans un grand comité du sport italien. Voilà, c'est une bébé Vio, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. C'est une icône, hein, icône de sa génération. Elle a été aussi porte-parole internationale pour la marque L'Oréal. Enfin, voilà. Une jeune fille qui est très dynamique, voilà. En tout cas. Et qui jeune femme, voilà. Plutôt.
Et donc, cette année, elle a remporté donc, la médaille de bronze au JO 2024.
Ouais.
Donc, impressionnant quand même.
Impressionnant,
hein, toutes ces athlètes-là. Alors,
petite chanson.
Une petite chanson, voilà, avec Mon truc en plume, interprétée par Lady Gaga, toujours lors de l'ouverture des JO. Lady Gaga en veilleuse. Et alors maintenant, on va vous parler d'autres athlètes là, qui sont qui n'ont pas forcément fait comment les Jeux Olympiques, mais qui quand même se sont distingués. Par exemple, et qu'on fait évoluer la place des femmes un peu dans le sport. Par exemple, comme cette américaine, Bobby Gibbs, en 1966, qui tente de s'inscrire dans le marathon de Boston. Alors, sa demande va être rejetée hein, pour une raison quand même assez déconcertante. Et c'est en raison de leur constitution physique, les femmes ne sont pas capables de terminer un marathon. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Voilà ce qu'on lui dit pour une fin de non-recevoir à sa demande. Alors, le jour de la course, bah, du coup, elle se cache dans une haie en attendant le départ. Alors, et quand à peu près la moitié des participants sont passés, elle va rejoindre le groupe. Alors, ses vêtements ont été un peu improvisés. Hein. Elle a pris le short de son frère, des chaussures de sport pour hommes, un maillot de bain et un pull. Voilà. Et donc, malgré la chaleur, donc, elle n'ose pas enlever le pull, hein, de peur qu'on remarque qu'elle est une fille. Mais bientôt, les autres coureurs se rendent compte quand même qu'elle n'était pas un homme. Et contrairement à ses craintes, en fait, au lieu de la gêner, les hommes vont la protéger des autres qui l'empêcheraient de continuer la course. Donc, rassurée, elle va quand même pouvoir enlever son pull. Alors, la réaction du public, lorsqu'il réalise qu'une femme court le marathon, est assez surprenante. Les hommes ont applaudi. Les femmes ont été fort émues. Et alors qu'elles passaient devant...
Elles ont peut-être applaudi aussi, après
oui,
tout.
Oui, sûrement. Le Wellesley College, les étudiants...
Ah, les femmes sont très émotives, c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça, voilà. Donc, quand elle passe devant le Wellesley College, les étudiants l'accueillent avec un enthousiasme débordant. Des hurrahs et des youpis. Et donc, à son arrivée, le gouverneur du Massachusetts... Alors, je n'ai pas noté le nom, hein, parce que je n'arrive pas à prononcer, voilà. Donc, lui a serré la main. Et donc, à ce jour, quand même, elle reste, elle reste une icône hein, du sport féminin de compétition. Elle a donc ouvert la voie à des générations de femmes, prouvant que les limites n'existent que dans l'esprit de ceux qui les imposent.
Alors oui, et l'année suivante, c'est amusant, parce que l'année suivante, toujours à ce marathon-là, il y a une autre nanette qui est... qui a créé l'événement. C'était Catherine Switzer. Donc ça, c'était en 67. Mm-hmm. Alors elle s'est inscrite. Elle était inscrite, contrairement
oui,
là, donc, à Bobby
Gibb.
Par contre, elle avait omis de mettre son nom complet, son prénom complet. Mmh. Elle avait juste mis ses initiales. Et donc, les gens n'ont pas pensé que ça pouvait être une femme qui ose s'inscrire. Et donc, elle a commencé à courir. Et quand un des commissaires de la course s'est rendu compte que c'était une femme, il a essayé de l'arrêter, de lui arracher son dossard. Et il y a une photo vachement connue qui traîne où vraiment on voit le type a une tête, il est fou furieux quoi. Enfin, il essaie d'arracher le dossard et le mari de cette femme là un peu repoussé parce que le commissaire en question. Enfin bref, elle a fini la course. Mais ça a été un truc assez étonnant
assez
aussi.
Violent,
quoi.
Oui,
assez violent, oui.
Ouais. Bah ouais, comme quoi, c'est pas facile. Hein. Non, tu veux pas nous parler de Billie Jean King ?
Oui. Ah bah encore une sportive émérite, engagée, tenniswoman américaine. 129 titres. Et en 70, avec 8 autres joueuses, les originales 9, enfin, je suppose qu'on dit ça en anglais, un 9. Hein. Bref, ouais, vous m'excuserez. Elle a participé à la création du tout premier circuit professionnel de tennis féminin autonome. C'est une femme qui est, pareil, très active. Elle a fondé la Women's Tennis Association, la WTA. En 1973, et donc elle en devient la première présidente. Et en 2020, la Fed Cup est rebaptisée à son nom. Voilà, quelqu'un qui a marqué l'histoire du tennis féminin. Et outre ses performances, elle a été très engagée de manière générale hein, sur l'égalité des sexes et des droits des femmes. Et c'est quand même la première femme qui a connu, la première femme sportive connue qui a osé déclarer son homosexualité et qui a défendu ouvertement les droits de la communauté LGBT.
Voilà.
Donc, un personnage aussi, Billy Jenkins.
Très bien. Donc, maintenant, ce que je vous propose, on va écouter une petite chanson là, de Imani, qui est une sportive. Hein, elle faisait du saut en hauteur. Elle a été mannequin aussi, et puis chanteuse. Et elle a même remporté une victoire de la musique avec cette chanson que l'on va vous passer maintenant et qui s'appelle « Don't be so shy ».
Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. Myself in your holy water, and both my eyes just got so much brighter, and I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why.
Et ben voilà. Donc c'était Imani. Alors je vais vous parler brièvement là de Marinette Pichon. Alors elle c'est la première footballeuse française à faire partie carrière aux États-Unis. Et donc elle est considérée aussi comme la première star du football féminin en France et jusqu'en 2020 et à la formidable performance d'Eugénie Le Sommer contre la Macédoine, Pichon détenait le record de buts en équipe de France. Marinette n'est pas seulement connue pour ses talents de footballeuse, elle a également révolutionné le monde du sport et la société dans son ensemble en obtenant un congé paternité pour la naissance de l'enfant de sa compagne en 2012.
Ouais, ah, ça c'est
voilà.
Balèze.
Voilà, ça c'est... Et donc... Tu nous parles de Serena Williams ?
Oui, on peut parler de Serena Williams, numéro un mondial pendant de nombreuses années, nous allons dire. Quand même l'une des tenniswomen les plus populaires actuellement. Enfin, même quand on ne s'intéresse pas au sport de très près, c'est oui, un nom qu'on connaît.
On connaît son nom.
Voilà. Elle a quand même remporté 23 titres du Grand Chelem. Alors, on la connaît grâce à ses performances, mais aussi on la connaît à travers sa personnalité, en fait. C'est quand même une personnalité très forte. Elle est très engagée à la fois contre le sexisme, le racisme, les violences policières aux États-Unis, puisqu'elle est américaine. Ses choix vestimentaires aussi ont fait pas mal parler. On parle par exemple de la combinaison Black Panther ou de ses tutus. Enfin, voilà, un moyen d'exprimer ses idées. D'ailleurs, à propos des tenues, c'est quand même pas inintéressant de voir que il y a un certain nombre de... Enfin, dans les sports, il y a quand même des descriptions des tenues réglementaires, voilà, en fonction des sports, etc.
Oui, et par exemple, on ne peut pas s'habiller n'importe comment.
Non, voilà, c'est quand même... voilà. Et par exemple, pour le handball, il y avait quand même des demandes de tenues au-delà de féminines, voire... enfin, bikini, quoi. Les championnes, enfin aux championnats d'Europe, les joueuses norvégiennes à l'été 2021, ces joueuses-là ont créé l'événement parce qu'elles ne sont pas venues en maillot machin. Elles sont arrivées avec une tenue moins sexy, on va dire.
Sexy, moins moulante.
Moins moulante, tout ce qu'on veut. Et ça fait vraiment un scandale. Et la commission de discipline de la Fédération européenne leur a imposé une amende de 1 500 euros.
Oui, quand même. Chacune.
Excellente question. En tout cas, ça a foutu donc je ne répondrai pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, elles ont eu une forte amende. Mmh. Et alors, du coup, forcément, ça a créé des discussions, des polémiques, des remous. Et finalement, le règlement a été un peu modifié. Et maintenant, elles ont droit de porter des shorts, mais courts et serrés.
Ah, quand même, oui, il faut que ça moule les fesses.
Voilà.
Même.
Alors, il y a aussi la tenue des footballeuses, par exemple. Donc le short blanc pour des femmes, c'est pas toujours pratique pour si on tombe au moment des règles, on peut avoir des fuites, ça se voit de loin, du rouge sur le blanc. Et du coup, il y a quand même certains clubs qui ont modifié un petit peu leur règlement par rapport à ça. Donc ça évolue, mais on sent que ça évolue tout doucement. Puis à chaque fois, c'est quand même enfin, faut y aller, quoi.
Batailler serré.
C'est particulier, quoi.
Ah, c'est pas facile.
Ah non, c'est pas facile.
Alors, on a aussi Megan Rapinoe. Alors, je sais pas comment on dit bien prononce son nom, mais enfin bon. Alors, c'est une footballeuse professionnelle internationale qui a conduit les Américains à la victoire lors de deux Coupes du Monde féminines en 2015, mais aussi en 2019. Alors, les spécialistes sont quand même forcés de reconnaître que son style de jeu est unique et particulièrement astucieux. Et donc, au-delà du monde du foot et du sport, Megan est également connue, jouer un rôle actif dans la lutte contre le sexisme, l'homophobie et le racisme. C'est une défendeuse de nombreuses organisations LGBT, y compris le Gay, Lesbian and Straight Education Network et Athlete Holly. En 2013, elle a reçu le prix du conseil d'administration de Los Angeles Gay and Lesbian Center. Et elle milite aussi pour l'égalité dans le sport et notamment contribué à l'obtention de l'égalité salariale pour les membres des équipes nationales de football aux États-Unis. Bah oui, parce que là, c'est pareil, dans le sport comme dans la vie quotidienne, les salaires ne sont pas forcément les mêmes pour les hommes et les femmes. Alors, elle a été choisie aussi à deux reprises comme faisant partie des 100 personnes les plus influentes du magazine Time. Et en juillet 2022, elle reçoit la médaille présidentielle de la liberté.
Donc, ouais, voilà. Impressionnant. Pour revenir à l'amende là, de tout à l'heure, c'était... j'ai vite fait regarder sur mon smartphone.
Bon. Très bien, très bien.
C'est bien 150 par joueuse.
Ah ouais.
Mais c'est quand même... Enfin,
oui,
c'est
bah
fou,
oui,
quoi.
De, voilà, de...
C'est quand même fou. Alors voilà, il y a encore du boulot pour que les choses deviennent vraiment égalitaires. Hein. C'est vrai que, bon, tout à l'heure, je disais que les femmes sont quand même moins inscrites dans les clubs, puisqu'il y a un petit peu, je ne sais plus, c'est 38%, je crois, d'inscription. Alors, c'est peut-être pas les chiffres de cette année, peut-être qu'avec les, voilà, avec les Jeux Olympiques, ça a changé, que beaucoup de femmes se sont inscrites.
Hein, à 40%.
Voilà, donc il y a encore du travail là-dessus. Et puis, c'est vrai qu'on peut constater aussi que quand on inscrit les enfants en début d'année pour des sports, souvent les petits gars ils vont aller faire du foot, du rugby, du basket. Bon, les filles, quelquefois un peu du basket, mais aussi beaucoup de la danse,
beaucoup
de danse ou de la gymnastique élégante. Et voilà, enfin, y a encore, c'est encore très. Très marqué au niveau des sports, pour certains sports.
Il y a peu de filles.
En danse, il y a très peu de garçons, par exemple. Voilà, il y a quand même un truc qui est encore bien ancré. Voilà. Bon, après, voilà, c'est comme ça. Mais c'est intéressant à observer quand même que les choses évoluent, mais il y a quand même des choses qui restent assez inamovibles, finalement.
Bon, Marc, moi, franchement, je me vois mal aller m'inscrire dans une équipe de rugby. Hein. Mais bon.
Oui, 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 mais on... Oui, mais à nos âges, ce sera un peu tardif. On risque de se faire casser des os. Parce que c'est physique, quand même.
Oui, bah oui.
Voilà.
Oui, oui.
Mais,
non, ça, c'est pour les petites jeunes, ça.
Oui, oui, oui. Mais bon, c'est vrai que il y a encore ce côté, il y a les sports virils et les sports plus féminins, quoi. Enfin, bon, bref.
Et
voilà, un petit peu tout ce qu'on peut.
Voilà,
on aurait pu raconter plein d'autres choses. Mais
oui, c'est ça. Et puis alors, peut-être qu'au cours de prochaines émissions, on vous parlera de femmes aussi, plus particulières, qu'on fait de la course automobile, par exemple,
ouais,
ou l'aviation.
Ouais.
Dans l'aviation, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont été des pionnières.
Ouais.
Voilà. Donc. Et donc, bah, suivant les émissions, on vous parlera soit d'une personnalité, ou aussi parfois de petites anecdotes qui ont marqué comment l'évolution de la vie des femmes, ce qui a pu changer pour elles grâce à, je sais pas, la machine à coudre.
Oui, bien sûr. Mais la machine à coudre, au début, c'était réservé aux hommes, ça. Bon, enfin, on en parlera une autre fois.
On vous en parlera. Parce qu'il y a plein d'anecdotes quand même assez drôles ou la machine à écrire, ou des choses comme ça. Voilà.
Là, on pourrait peut-être la prochaine fois parler un peu d'Olympe de Gouges.
Mais parfaitement, parfaitement. Donc, c'est une grande dame donc, pour la cause féminine.
Voilà. On dit tout de suite ce qu'elle... Elle a quand même déclaré un jour... La femme a le droit de monter à l'échafaud. Elle doit avoir le droit de monter à la tribune.
Bah oui,
je trouve que c'est beau quand même.
Ouais, c'est quand même, hein, voilà.
Donc voilà, on pourra parler d'elle la prochaine fois.
Voilà. Très bien. Bon, on espère que cette émission vous aura plu, vous aura appris quelques petites choses. Et puis, on se retrouve alors dans un mois pour vous parler de cette chère Olympe. Voilà.
À bientôt.
Donc, à bientôt.
Du coup, ça fait combien de temps ?
Qui c'est qui fait la vaisselle ? Faut pas que ça se perde. Qui c'est qui doit rester belle ? Les mains dans la merde.
Balance ton quoi ? Un jour, peut-être, ça changera.
Vous mariez pas les filles, ne vous mariez pas.
Histoire d'elle.
Ces femmes parfaites,
de mauvaise vie.
Libérée,
soumise,
d'esprit,
fatale,
tatouée,
douce,
savante,
de l'être,
facile,
fidèle,
bonne femme,
au foyer,
moderne,
citoyenne,
de caractère,
combattante.
Écoutez-nous.
Nous vous parlerons d'elle, de vous et des autres.
Le premier dimanche de chaque mois à 13h.